jour de la question.
Caroline Lachowski.
Bienvenue à vous qui nous rejoignez autour de la question comment échapper au trou noir numérique avec nos invités Andrew Guerceau, collaborateur du compositeur Pierre Boulez et directeur de la pédagogie à l'IRCAM, et Roberto Di Cosmo, professeur d'informatique, spécialiste des logiciels libres. Nous cherchons dans nos sociétés où tout est numérisé comment échapper à l'oubli induit par nos technologies sans cesse caduques, sans cesse dépassées. Nos œuvres d'art comme nos archives personnelles vont-elles devenir illisibles ou lisibles par qui, pourquoi, comment les choisir? Le digital dark age, l'âge sombre du numérique, menace-t-il la survie de notre mémoire collective? Tout cela avait pourtant si bien commencé en réseau, comme le rappelle Jérémy Zimmermann, porte-parole de la Quadrature du Net.
Alors, mon expérience du réseau remonte à 92, je crois, avec des potes. On se faisait des réseaux de PC qu'on se trimbalait comme ça sous le bras avec les gros écrans beiges. Et on montait la plomberie du réseau BNC pour les interconnecter et échanger des fichiers et des machins comme ça. Et ma première connexion, je l'avais vue chez quelqu'un fin 94. C'était sous un vieux système à l'époque. Il m'a dit, tu vois, là, tu vas sur un FTP, tu récupères des fichiers. Waouh! Et puis là, tu vas sur un autre FTP, à l'autre bout du monde, et tu récupères tel autre fichier, Warez. Waouh ! Et il y a les deux qui arrivent en même temps. Waouh ! Et pendant que ça arrive en même temps, regarde, là, je vais sur un truc, ça s'appelle IRC. Tu peux chatter pendant que les trucs arrivent. Et là, j'ai dit, ok, j'ai compris. Tu te connectes au monde entier.
Réseau, se connecter avec le monde entier, extrait du documentaire diffusé sur Arte, La contre-histoire d'Internet, l'enthousiasme qu'a ressenti Jonathan Zimmermann, porte-parole de la Quadrature du Net, face aux possibilités des réseaux. Vous l'avez sûrement aussi ressenti, Roberto Di Cosmo.
Oui, c'est un peu plus vieux que Jérémy, donc j'ai ressenti cette passion-là effectivement, au milieu des années 80. Les choses ont quand même pas mal changé, c'est-à-dire à l'époque, quand on s'était compté sous les réseaux, on était une toute petite communauté. Donc parler avec tout le monde, c'était quelques milliers, voire quelques dizaines de milliers de personnes.
Ah, c'est une toute autre échelle.
Ce qu'on observe aujourd'hui, et c'est, qu'il y a la, disons, c'est vraiment la racine du problème moderne auquel on est confronté, c'est les passages à l'échelle. Une chose, avoir un réseau de quelques milliers de personnes, autre chose, avoir un réseau de milliards de personnes, même si chacun sait qu'on est juste avec ses petits voisins. Comment gérer, comment distinguer la qualité de ce qui n'est qu'accessoire, comment distinguer les signaux de bruit dans des masses d'informations d'échange comme ça, comment décider qu'est-ce qu'on veut préserver ou pas. Vous savez, il y a quelques années, je me rappelle, il y a un journal de l'ACM, c'est l'Association for Computing Machinery, qui est un journal de référence à l'informatique pour nous, qui titrait, ben voilà, on a passé la barre des quoi? On est, pour la première année, arrivé à un moment dans lequel on produit plus des données de ce qu'on peut stocker. Ça peut paraître impressionnant, mais effectivement, tout ce que nous avons n'est fait que produire des données. Mon téléphone cellulaire et mobile, là, il produit des données. Tout ce qu'on est, tout l'appareillage ici à RFI produit des données partout.
Tout. On est en train de générer, enfin, tout ce qu'on sait bien au niveau personnel.
Ouais, sans s'en rendre compte.
Sans s'en rendre compte, tout un tas de données. Donc, effectivement, on se rend compte que c'est la boîte de Pandore. C'est-à-dire que c'est les questions qui ouvrent d'autres questions. Il y a la question du stockage, tout ce qu'on produit au jour le jour. Une question qui se pose, on va y revenir pour les œuvres d'art. Une question qui se pose aussi aux scientifiques. Je crois que parmi les premiers qui ont donné l'alerte, c'est les scientifiques de la NASA qui n'arrivaient plus pour réparer une sonde à relire quoi, leur carte perforée.
Évidemment. Donc, les cartes perforées sont tellement vieilles que quand j'étais étudiant en informatique, je n'avais presque plus vous. Hein, donc, j'ai juste un lecteur une seule fois. Mais effectivement, donc, les technologies informatiques bougent excessivement rapidement et c'est très, très, très difficile d'arriver à tout relire. Hein. Et donc, c'est pour ça que c'est très important de stocker de façon intelligente, pas seulement la donnée en tant que telle, mais l'information sur comment y accéder et l'information sur les logiciels qui permettent de la manipuler. Et alors, ça, malheureusement, il ne suffit pas juste de stocker de la documentation. Il faut aussi transmettre, maintenir les savoirs et les savoir-faire. Et ça, c'est quelque chose de prêtement humain. Donc, il faut arriver à former nos jeunes pour qu'ils soient capables.
C'est ça, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'avec l'informatique, on génère plein de données, qu'on se posait en première partie la question de savoir comment les relire, ces données, mais qu'il faut après, même si vous, en tant qu'informaticien ou en tant qu'à l'IRCAM, vous donnez toutes les explications, il faut bien qu'il y ait une intelligence humaine qui puisse être capable de lire ces explications.
C'est plus qu'une intelligence humaine, il faut un vrai métier autour de chaque préoccupation. Donc, dans le cadre des œuvres, par exemple des œuvres mixtes, même quand j'ai
estimé... Donc vous avez mis électro-acoustique,
voilà, électronique plus instrumentale, même quand on peut estimer que c'est bien documenté, bien noté, etc. Il faut absolument l'intelligence de nous, ce qu'on appelle dans notre jargon réalisateur en informatique musicale. Ça veut dire quelqu'un qui est capable de prendre une partition, ces données-là, et à un instant T, convertir ça dans un programme informatique qui marche.
Il faut, faut la connaître en informatique et évidemment en musique, un
voilà,
peu comme pour les partitions anciennes.
Enfin... Voilà, exactement. Mais c'est un peu comme la partition traditionnelle, où il y a la partition, il y a les notes, il y a toutes les indications, etc. Mais après, il y a le style, il y a le métier de l'instrument, il faut connaître l'époque, il y a la question d'interprétation, etc. Et donc tout ça, ce sont des formes d'intelligence différentes qu'on est en train d'appliquer à la même matrice, ce qu'on appelle la partition. Donc en plus, une partition qui contient une partie électronique, là aussi, on va commencer à interpréter. Il y a quelque chose aussi qui est une question qui se pose, c'est que quand on revient sur ces informations-là, et on les réinterprète, on le reprogramme dans un autre logiciel, dans notre machine, on est en train de s'éloigner de la première version.
En fait, on fait des copies, mais qui
pas
sont...
Pas des copies, mais on fait des interprétations.
On fait des interprétations.
On fait des interprétations. Après, il y a quelqu'un, invariablement, qui va lever le doigt, qui va dire, mais est-ce que c'est authentique?
Est-ce que c'est fidèle à l'esprit du maître?
Oui, parce que en fait, je me suis fait, comme on est pris à partie en public un jour où j'étais en train de présenter une œuvre de Boulez en utilisant une troisième génération d'ordinateur sur cette œuvre, et quelqu'un m'a dit mais vous êtes pas en train de jouer sur l'œuvre, sur l'instrument d'origine, et donc c'est une fraude ce que vous êtes en train de faire là, c'est pas authentique, c'est pas vous n'avez pas respecté la pensée du donc on pourrait arriver
on se rend compte qu'à chaque niveau ça pose question, qu'il y a problème, quoi copier, comment copier, qu'est-ce qui reste aussi, comment choisir ce qu'il faut décider de garder et mettre toutes nos intelligences humaines et machines à ce service là autour de la question comment échapper au trou noir numérique. Et qu'est-ce qui va y échapper justement? Je vous propose un nouvel éclairage, c'est celui d'un sociologue, Gérald Bronner. Il travaille lui sur les croyances populaires et il s'est intéressé justement à la diffusion accélérée de celle-ci sur le net.
D'abord, il est bien connu que sur la masse, les exabits de données qui sont disponibles, nous avons accès en réalité à une portion congrue de ces données par les moteurs de recherche. Donc il y a déjà un tri par les moteurs de recherche qui nous permet d'accéder seulement à, je dirais, la partie émergée de l'iceberg. Et puis ensuite, qu'est-ce qui va constituer l'oubli? Il y a quand même une rémanence de l'information. Donc l'information n'est pas tout à fait perdue la plupart du temps. Et qu'est-ce qui va sculpter en fait cette disponibilité de l'information? Bah, c'est ce que vont en faire les internautes, leurs demandes. Et donc en fait, je crois que les croyants ont un grand rôle à jouer, car c'est la motivation des internautes qui va être fondamentale. Si vous prenez les 100 premiers sites, par exemple, ou les 30 premiers sites qui sortent sur tel ou tel thème, vous verrez que les croyants ont généralement réussi à instaurer une forme d'oligopole cognitif, c'est-à-dire une domination. Dans les 30 premiers sites, la plupart des sites défendent telle ou telle croyance, monstre du Loch Ness, astrologie, etc., etc. Donc en fait, cette masse d'informations, elle est aussi sculptée, en fait, par ce qu'en font les offreurs. Ceux qui produisent de l'information et ceux qui sont le plus motivés à produire de l'information dessineront sans doute les contours du continent informationnel de demain.
Pour le meilleur ou pour le pire, parce que les plus motivés, c'est pas toujours ceux qui vont garder le meilleur.
Mais absolument.
Autour de la question « Comment échapper au trou noir numérique ?» Comment faire pour garder le meilleur, Roberto Di Cosso? Puis c'est quoi le meilleur aussi?
Ah oui, ça, je n'aurais pas la réponse. Qu'est-ce que c'est le meilleur? Ça, c'est un débat politique intéressant. Mais effectivement, là, on a été pas mal habitués, effectivement, par les instruments modernes, que ce soit Google ou d'autres choses, à confondre les meilleurs avec essentiellement la première réponse qu'on récupère dans son requête sur un moteur de recherche.
Donc le plus demandé, alors, on confond le plus demandé avec
voilà,
le meilleur.
Voilà, donc si je mets chaussures dans une recherche et je récupère Nike en sortie, est-ce que ça veut dire qu'effectivement, il faut tous mettre des chaussures Nike, ou est-ce que j'aurais plutôt intérêt, moi, mais fournir chez un chausseur des Milan, par exemple, en Italie, qui fait des super belles choses,
mais qui n'est pas le premier sur le moteur de recherche.
Qui se trouve dans la page 2, 3, 4, 5. Vous savez, aujourd'hui, il y a des entreprises entières qui essayent de vous aider à faire en sorte que les résultats de la recherche qui vous concerne apparaissent dans la première partie de l'écran, de la première page des réponses de Google, c'est celle dans laquelle les gens regardent le plus. C'est même plus une question d'être référencé par Google, mais il faut absolument être tout un an. Donc ça, je n'ai
pas. Parce qu'il y a trop d'informations et parce qu'évidemment, voilà, il y a des questions économiques derrière.
Et parce qu'il y a aussi une autre limitation, du jour qu'on parle d'intelligence humaine, il y a des limitations bien connues pour nous en tant qu'être humain. On sait bien qu'on a des graves difficultés à arriver à, disons, à faire comparer plus que 10 objets ou 10 qualités différentes en même temps. Donc c'est pour ça que c'est absolument nécessaire d'arriver
à dans les premiers 10. Dans les 10 premiers.
Et donc là, la grosse question qui se pose est finalement, comment garder l'information, comme on a les plus grands mal du monde à savoir exactement qu'est-ce qui vaut la peine d'être gardé. Mm-hmm. Si vous regardez même de l'histoire de la littérature, hein, des fois il y a des livres qui étaient brûlés ou jetés parce qu'ils ne correspondaient pas à l'esprit de l'époque et qui sont devenus des grands classiques modernes.
Absolument. Aujourd'hui. C'est rarement dans l'instantané qu'on sait ce qu'il faut garder
ça,
d'ailleurs.
C'est plutôt plus tard. Donc là, on aurait plutôt envie de garder un peu tout. Le reste que technologiquement, on peut y arriver. Mais moi, je pense qu'on aurait une petite piste pour arriver à garder à peu près tout. Hein, c'est basant un peu sur la différence, la variété des êtres humains qui ont tous des intérêts différents. Donc, si vous voyez, si moi, je suis passionné par la littérature du 15e siècle, j'ai exactement telle année dans telle partie de la France ou de l'Italie, je vais probablement m'intéresser à ces documents, les retrouver, les stocker chez moi, faire une copie, construire une communauté des gens qui s'intéressent à cette mini information. Et donc, je vais faire un archivage, je vais contribuer à faire une sorte d'archivage personnel qui est différent de l'archivage centralisé dans lequel il y a quelqu'un qui décide qu'est-ce qui rentre dedans, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, et qui était plus ou moins, si vous voulez, l'archivage de la grande bibliothèque d'Alexandrie une fois, dans lequel quelqu'un décidait qu'est-ce qui était stocké là-dedans, il était absolument bien stocké, répliqué, s'y trouvait absolument à l'intérieur de cette bibliothèque, mais finalement, construire des grandes bibliothèques centralisées dans lesquelles il y a une copie de l'objet qui est choisi,
ça peut brûler.
Fini pour construire, c'est qu'en informatique, on connaît bien, c'est les single point of failure, non, c'est les points de fragilité absolue, c'est l'endroit dans lequel, si on perd les données là, on a tout perdu. Et alors, si vous regardez aujourd'hui, avec les énormes structures de ces géants de l'informatique, ils peuvent être Amazon, Yahoo, ils peuvent être Google, Microsoft, etc., ben on construit des gigantesques structures informatiques qui, bien évidemment, sont maintenues par des ingénieurs du meilleur niveau, qui sont bien évidemment répliqués, mais qui sont une structure. Donc, ils deviennent le point de fragilité dans ces sociétés modernes.
Donc, si à la fois, ils sont les seuls, comment on dit, prescripteurs, donc ça, c'est un danger plutôt éthique,
mais
et en même temps, c'est aussi un point de fragilité, un talon d'Achille.
Exactement.
Donc, vous vous dites, mais j'ai l'impression que vous revenez un peu, à l'époque, au début d'Internet, mais c'est pas pour rien que vous défendez aussi les logiciels libres, c'est
absolument.
Parce qu'en fait, vous revenez à un esprit de réseau, de dire, au fond, tout un chacun, puisqu'on est tout sur le net, qu'on est tout sur la toile, autant se servir de la collectivité.
Absolument. Non, si vous regardez aujourd'hui, effectivement, on est confronté à cette génération de données absolument incroyable, mais il y a une petite constante, si vous regardez, avec 100 euros, si vous allez voir ce que vous pouvez acheter chaque année, bon, la capacité des disques que vous pouvez acheter chaque année, elle double à peu près tous
donc
les ans.
Les disques durs, ils restent au même prix et ils stockent
plus. Au même prix, et donc maintenant, vous pouvez acheter tranquillement un disque de 2 téraoctets, qui est largement suffisant, et stocker pas mal d'informations intéressantes pour vous. Ça va continuer, alors pourquoi ne pas permettre aux gens, effectivement, de partager la connaissance qui les intéresse? Mais là, ça m'amène à mon deuxième chef de bataille, c'est que techniquement c'est un défi, c'est-à-dire c'est plus difficile de dupliquer de l'information à un réseau et après la retrouver, parce que donc, vous avez une quantité énorme d'acteurs qu'il faut un peu structurer pour faire en sorte qu'on retrouve l'information de façon intelligente. Mais de l'autre côté, il y a aussi la grosse question, est-ce que ces gens ont les droits légalement de faire ces copies pour archiver pour leurs propres besoins? Et là, on est confronté à un changement des modèles économiques épocal dans lesquels vous avez des lois qui ont été imposées, en particulier les droits d'auteur, mais les droits de brevet, etc., qui font en sorte qu'ils deviennent de plus en plus difficiles pour des particuliers, disons, de stocker l'information qui les passionne, de l'échanger avec les autres.
Donc c'est complètement paradoxal. Au fond, il faudrait que chacun d'entre nous qui sommes passionnés par quelque chose, on puisse devenir une sorte de petite bibliothèque, plein de petits pôles comme ça, mais on peut pas.
Ben, c'était ce qu'on, à l'époque, c'est au début, c'est ce qui était les fameux peer-to-peer, voilà, les réseaux d'échange pair à pair. Donc, on pouvait mettre à disposition notre propre bibliothèque, la reprendre ailleurs et essayer de la voir répliquée un peu partout, ce qui permettait aussi de résister à des pannes informatiques, etc. Mais, évidemment, vous savez bien, donc, il y a tout un itinéraire législatif qui nous a mené à des lois, pas seulement en France, hein, c'est un mouvement mondial, de la part des tenants d'anciens modèles économiques, qui essentiellement empêchent l'utilisation légal de ces moyens. Alors, il y a plein de gens qui continuent à utiliser quand même. Mais disons, c'est très dommage. On est dans un moment dans lequel stocker des préservés dans la durée devient difficile et devient cher. Alors, pourquoi s'est privé juste à ce moment-là de la possibilité de se baser sur la capacité de la masse d'internautes à contribuer à cette œuvre de préservation, finalement, en préservant les particularités, les différences des goûts, sans avoir un maître central qui censure les choses, qui décide qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien.
Moi, je propose qu'on médite quelques instants là-dessus, le temps d'écouter Dire Straits, que vous nous avez soufflé hein, sur RFI. C'est Roberto Di Cosmo, donc c'est vous qui nous l'avez conseillé. Apparemment, Andrew Guerzo, vous aimez aussi Money for Nothing.
I
Straight sur RFI, Money for Nothing, autour de la question comment échapper au trou noir numérique. Alors, on vient de se rendre compte avec vous, Roberto Di Cosmo, qu'un des moyens était peut-être collectif, et puis de faire ça tous pour rien, ou juste pour notre intérêt finalement personnel. Andrew Guerzo, on a évoqué aussi le fait de savoir, mais quoi conserver dans toute cette masse de données? Qu'est-ce qui est le meilleur? Comment conserver le meilleur? Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes à l'IRCAM?
Je dirais simplement pour commencer que peut-être on a commencé tout ce processus-là avec une grande dose d'optimisme et peut-être un petit peu d'irresponsabilité parce qu'on décide pas ce qu'on garde, etc. Donc on garde tout et comme ça le tour est joué. Donc tout le monde a fait cet petit exercice avec les photos qu'on garde en famille, c'est-à-dire on garde tout, etc. Mais après quand il faut trouver la photo de telle date avec telle personne, etc.
On est noyé, c'est impossible.
On est noyé. Je crois qu'une première petite leçon à court terme, c'est que quand on fait quelque chose, il faut qu'on réfléchisse un petit peu plus avant de mettre une information.
On pense tout de suite à la postérité, à comment on va la retrouver, la garder, s'en servir.
Peut-être postérité, c'est un grand mot, mais en tout cas, véritablement réfléchir à qu'est-ce qui est essentiel à garder comme information. Alors, je voulais rebondir un petit peu sur ce que disait Monsieur Di Cosmo par rapport à la possibilité que les gens aient de leur bibliothèque privée avec des informations, etc. Il y a un élément qui est absolument clair et net, c'est que par exemple pour les œuvres mixtes, là je reviens au point de vue de l'IRCAM, pour que les œuvres mixtes puissent continuer à exister, il faut que dans tous les procédés techniques, il faut qu'on sache d'une façon ou d'une autre comment ça marche. Alors, il y a des procédés qu'on sait très techniquement, on peut aller dans n'importe quel site, Wikipédia, etc., savoir comment tel ou tel module marche, etc. Ça, c'est extrêmement important. Parce que moi, je me souviens de l'époque, au début de l'IRCAM, où il y avait des compositeurs qui composaient avec des synthétiseurs issus du commerce, des synthétiseurs où, au fond, on savait pas vraiment comment ça marchait à l'intérieur. Donc, par exemple, si on voulait absolument 10 ans après retrouver ce même son, bon, c'est aujourd'hui que ça, c'est absolument impossible.
Donc, il faut avoir la connaissance, il faut savoir effectivement comment marchent les outils.
Il faut vraiment avoir la connaissance technique. On peut pas avoir des boîtes noires. Une boîte noire est condamnée à la mort.
À rester une boîte noire.
Et donc, ça implique aussi qu'il faut éviter les boîtes noires. S'il y a une boîte noire avec une sorte de savoir qui est inaccessible pour des raisons légales, pour des raisons techniques, pour
économiques.
éviter, il faut l'éviter.
Pas de boîte noire. Autour de la question, comment échapper au trou noir numérique? Comment conjuguer justement oubli nécessaire, hein, tout de même face à l'accumulation des données et préservation indispensable? Je propose un dernier éclairage, c'est celui d'un géographe, Michel Lusseau, auteur de L'avènement du monde.
Oui, c'est une vraie question. C'est-à-dire que l'on voit bien que la multiplication des capacités d'utiliser et de produire de la donnée, parce que ça n'est pas simplement l'utilisation des données qui est intéressant en soi, c'est le fait que chaque individu devient producteur de données. Dans le cadre de la diffusion de cette open data dont beaucoup de gens ne parlent et dont nous avons peut-être encore du mal à mesurer les contours et surtout toutes les implications. Donc nous vivons de plus en plus immergés dans un bain de données. Nous sommes bombardés en permanence par les données. Mais le paradoxe, c'est que cette immersion dans des données de plus en plus nombreuses repose la question de façon tout à fait pertinente de savoir ce que l'on conserve, ce que l'on archive, ce que l'on garde en mémoire. C'est-à-dire la question de la mémoire, la question de la capacité à produire une relation à son propre passé devient une question obsédante. On le voit bien dans la manière dont les idéologies politiques sont travaillées par la problématique du passé, de l'identité en rapport avec le passé, par la problématique mémorielle, par la problématique de la façon dont on peut même parfois réparer des mémoires outrées ou flétries par tel ou tel événement politique.
Et vous avez l'impression que c'est lié aussi à ce...
Oui, oui, je crois encore une fois que le monde est équivoque et paradoxal et qu'à chaque fois que quelque chose advient, si je puis dire, son contraire se met en tension. Et je pense que notre immersion dans un monde de données immédiate, notre instantanéisme contemporain fait que du même mouvement, du même coup, la question du rapport au stockage, à la mémoire, à l'archive, à la trace, à la survivance, à la remembrance, cette question prend une importance de plus en plus cruciale.
C'est intéressant ça, oui. Vous pensez qu'il y a toujours une tension qui a l'un et à l'autre.
Je pense que c'est la caractéristique même de l'état contemporain de nos sociétés, de nos cultures, que de mettre en dialogue en permanence des choses apparemment contradictoires. Et pas simplement par pair, mais parfois par ensemble de pairs, si vous voulez.
Par réseau de contradictions. Réseau de contradictions, on n'a pas fini autour de la question comment échapper au trou noir numérique et pourtant, on s'approche doucement vers la fin de l'émission. Roberto Di Cosmo, comment échapper à toutes ces contradictions justement? On a l'impression générée par le numérique, par nos sociétés qui veulent tout numériser, par nos peut-être vieilles manières de faire, vieux schémas économiques, comment faire?
Ah ben ça c'est à nouveau une vaste question hein, pour répondre à ça. Je ne sais pas par quel bout il faut que je m'y prenne, mais bon, je vais bien essayer. Donc d'abord une petite chose. D'un côté, il faudrait bien savoir que la technologie que nous utilisons maintenant, il nous donne un pouvoir qui était, si vous regardez juste 200 ans en arrière, il n'était même pas d'allemand des monarches et des plus grands empereurs. Donc vous pouvez effectivement avoir accès.
Et on a tous ce pouvoir là.
On a tous ces pouvoirs seulement. Mais du coup, ça change. Parce qu'en fait, c'était un pouvoir qui donnait justement une connaissance que les autres n'avaient pas et ça permettait de contrôler les autres.
Mais le non, savoir, la possession.
On est dans une phase dans laquelle il faut qu'on apprenne vraiment, c'est le gros défi, c'est effectivement les passages à l'échelle. Comment on fait quand tous nous avons accès à une énorme quantité d'informations qui donne un pouvoir énorme?
Quand tous nous générons quantité d'informations?
Comment arriver à construire une histoire commune qui aille du sens? Alors ça, c'est pas une question qu'il faut poser à un informaticien comme moi, hein. Il faudrait poser à un historien ou un philosophe. Quoique, on est tous un peu philosophes aujourd'hui. Donc, moi, je reste quand même très, 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 très plein d'espoir, hein, vis-à-vis de la découverte du travail collaboratif entre différentes personnes qui est rendu possible, même à distance, grâce aux instruments d'aujourd'hui.
Donc il faut libérer, travail... il faudrait ouvrir plus,
absolument,
aller dans ce sens-là.
Mais disons, ce n'est pas un travail facile. Les simples faits d'être en réseau, d'être connecté en réseau, ne transforment pas chacun d'entre nous dans quelqu'un de bienveillant, gentil, collaboratif, etc. C'est quelque chose qui s'apprend, qui est assez complexe à faire. Et ça, si vous voulez, si je prends deux secondes pour vous donner de ma vie en tant qu'enseignant, donc moi j'ai toujours été formé par des enseignants qui m'ont forcé à travailler tout seul dans un coin. Donc on était noté un par an sur un devoir à la fin.
On n'a pas appris à être collaboratif.
Jamais sur un travail vraiment collaboratif, ou alors des collaboratifs bidons dans lesquels il y a un qui fait tout et les autres qui prennent la même note. Ça, c'est pas bien non plus. Donc il faut arriver à apprendre à travailler ensemble. On a les instruments qui nous permettent de les faire, mais il y a un long chemin et je ne sais pas si on va y arriver.
La pédagogie, apprendre à travailler ensemble. Andrew Garzou, ça doit vous parler, vous qui dirigez la pédagogie justement à l'IRCAM.
Oui, absolument. Je crois que c'est, il y a une chose qui est incontestable dans l'évolution de la, comment dire, de cette masse de d'informations qui est à notre disposition et l'enseignement. C'est que dans la, dans le modèle traditionnel de l'enseignement, le professeur était censé avoir une connaissance qu'il donnait à ses élèves. Aujourd'hui, l'élève, il arrive dans la classe, et il y a plein de connaissances que le professeur a, mais que l'élève peut avoir à travers les différentes sources d'informations. Donc le rôle du professeur change. Il devient plus une personne qui montre aux élèves où trouver l'information, comment trouver l'information, comment structurer l'information qu'il trouve, comment le mettre en œuvre pour réaliser un projet.
On a l'impression que tout change aujourd'hui et qu'il faudrait juste essayer de le penser, hein, ce que vous avez essayé de faire ensemble. On arrive à la fin de cette émission. Je peux juste vous remercier, vous proposer de revenir parce que je trouve qu'on a fait que tirer quelques fils qu'on pourrait développer ensuite. Merci beaucoup d'être venu en direct, Roberto
Merci
du Cosmo.
Vous, Merci.
Andrew Guerzo, pour nous aider à échapper, hein, au trou noir numérique qui nous guette tout en continuant d'avancer, j'ai bien compris, hein, collectivement, collaborativement et en réseau. Je rappelle que dans le cadre du festival Manifeste de l'IRCAM, plusieurs rencontres débats sont organisées les 12, 13 et 14 juin prochains à Paris, soit à l'IRCAM, hein, au centre Georges Pompidou, soit à la SACEM, hein, toujours à Paris. À noter jeudi 13 au soir à l'IRCAM, grand débat entre Pierre Boulez et Régis Debray. Amis auditeurs, restez curieux, restez à l'écoute de RFI. Dans quelques instants, c'est votre journal. Et nous, on se retrouve demain pour se poser ensemble d'autres questions. À demain.